Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci à vous d'être présents et présentes, nombreux et nombreuses, pour cette rencontre, ce véritable café littéraire, cette rencontre avec Florian Soulas, le coup de cœur des Imaginales 2021. Alors, au lieu de vous parler longuement, parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter, je vais évidemment très vite passer la parole à Florian, mais avant, je vais lui demander un peu, comme on fait dans le Portrait de Libération ou maintenant du Monde, Florian, définissez-vous en 5 dates.
Alors, on ne va pas donner les questions avant. 5 dates. 1992, j'ai 3 ans et je commence à faire semblant de lire La Petite Sirène alors que je ne sais pas lire. Mais je connais certainement par cœur que je peux tourner les pages au bon moment et tout le monde pense que je sais déjà lire. 2007, je vais à l'encontre de toutes les recommandations de mes professeurs du lycée et je décide de partir faire une prépa scientifique alors qu'on m'avait dit que je ne ferais jamais de science parce que j'étais trop bête. Et finalement, je fais une prépa, j'intègre une école d'ingénieur et j'étais super contente. Et puis du coup, 2013, je commence ma thèse. Alors qu'on m'avait dit que je ne ferais pas de science. Je commence ma thèse en physique et je pense que c'était les 3 meilleures années de ma vie. Et ça correspond aussi, donc je fais 2 dates en une. Hein. 2013, c'est aussi, fin 2013, c'est le moment où j'ai une espèce de révélation et où je me dis, en fait, si tu ne te mets pas à écrire maintenant, tu ne réaliseras jamais ton rêve parce que personne ne le fera pour toi. Donc, vas-y. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire des nouvelles, à chercher des appels à texte et à me dire qu'en fait, c'était ça que j'avais envie de faire aussi et qu'il fallait que je le fasse maintenant. C'était maintenant ou jamais, j'avais l'impression que j'allais, si je ne le faisais pas maintenant, j'allais mourir. Quoi. Donc c'est maintenant ou jamais. Et puis du coup, 2018, c'est la publication de Rouille, de mon premier roman, et c'est le début de cette aventure incroyable. Quoi. Voilà.
On croirait qu'on l'a préparé vraiment ensemble, cet enchaînement, parce qu'on est dans Rouille, justement, le premier roman de Florian Soulas. Et pour commencer, quelques lignes, simplement la dédicace, alors qu'on ne se connaissait pas, qu'elle m'avait envoyée. Bienvenue dans les méandres de ce Paris steampunk, où les masques côtoient les animaux mécaniquement modifiés et les ruelles sordides, les salles de bal. Merci d'avoir donné sa chance à Rouille et de lui offrir les Imaginales comme tout premier festival. Je n'aurais pas pu réussir mieux. Rêver mieux. Cette dédicace, évidemment, rétrospectivement, est amusante. Et Rouille, en fait, tout simplement, en décembre 2018, était dans la sélection du prix Imaginal des lycéens. Et donc, Florian, en quelque sorte, remerciait le festival pour avoir choisi son livre. Mais en fait, il fallait remercier, bien sûr, les enseignants de lettres et de documentation qui, avec moi-même, avaient repéré ce livre comme un livre exceptionnel, un premier roman exceptionnel de qualité, d'originalité et de dynamisme, de passion de raconter. Et on avait pensé que ça pouvait plaire aux lycéens du prix. On ne s'est pas trompé puisqu'il a été finaliste du prix et on ne s'est pas trompé puisqu'il a gagné le prix Imaginal des lycéens, donc premier roman, face à des auteurs qu'on ne nommera pas, mais de grands talents et des auteurs professionnels de longue date. Donc c'est quand même pas rien, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est pas si souvent. Les étoiles, c'était bien aligné pour Florian. Rouille, donc, un roman avec un choix qui a pu désarçonner, nous disait Florian, quelques éditeurs, quelques adultes. Et je vais vous retrouver un passage pour qu'on soit tout de suite au cœur du livre et des choix que ce qui était cette très jeune autrice, qui est une jeune autrice maintenant, simplement, ce choix de personnages. Qu'est-ce que tu traficotes encore ? Les clients s'impatientent. Et puis c'est quoi ces cernes-là ? Elle saisit le menton de la jeune femme entre ses doigts épais et lui releva la tête. Violente croisa l'un des nombreux miroirs qui flanquaient le couloir. Deux grands yeux lui rendirent un regard terni par l'inquiétude. Son nez retroussé lui donnait l'air mutin que les clients du bordel semblaient tellement apprécier. Une touche enfantine sous ses yeux hantés par l'absence de mémoire, d'identité. Elle n'avait ni la beauté ostentatoire ni un rien classique de Livia, ni les formes généreuses de la rose Scarlett, ni le mystère androgyne de la discrète Diane. Mais il fallait reconnaître que les traits sombres qui soulignaient ses paupières, lui conféraient un certain charme, comme une aura de défiance qui se reflétait dans ses grands yeux hantés. Violente jugula sa colère et son dégoût, se contentant de hausser dédaigneusement les épaules. « Ne tente pas le diable, ma petite souris, » la prévint Madeleine. « Un claquement de doigts et tu retournes dans la rue. » Violente suivit le regard de sa patronne, baissé sur son auriculaire manquant. Son doigt avait été remplacé par une prothèse en acier brillant, retenue à son poignet par une mince lanière de cuir. « Ça t'a pas réussi la dernière fois ?»« Je sais, » grinça-t-elle à voix basse. « Maintenant, retourne bosser. » On est dans un bordel. C'est une des prostituées du bordel. Et c'est l'héroïne, le personnage principal de Roule. Pourquoi ce choix de personnage, Floriane Soulas ?
J'aime bien les prostituées. Non, en fait, j'ai beaucoup de respect pour toutes ces femmes qui n'ont pas le choix. Aussi parce que j'ai travaillé quelquefois avec des associations qui viennent en aide avec, à ces personnes-là. Et voilà, et je trouve que... En fait, c'est un problème qu'on ne veut pas voir, et alors qu'il est omniprésent, et juste, on a décidé de ne pas regarder ça, mais c'est des personnes, c'est des humains, et elles ont des histoires, et c'est passionnant. Et en fin de compte, il y avait aussi une vraie volonté dans Rue de rétablir un peu la vérité sur la Belle Époque. Alors ça tombait bien, parce que j'avais envie de faire du steampunk, et du coup, c'est la même époque. Enfin, ça se recoupe, donc c'était chouette. Moi, c'est une période, la Belle Époque, qui est ma favorite parce qu'il s'est passé énormément de choses d'un point de vue social et notamment pour les femmes, qu'on oublie souvent parce que ce qu'on retient de la Belle Époque, c'est les bordels, d'une manière qui est quasiment toujours beaucoup trop idéalisée et romantisée. Et parce qu'on a cette image de ce qu'on appelle les demi-mondaines qui pouvaient ruiner des princes et tout ça, mais en fait, la Belle Époque, c'est déjà beaucoup de pauvreté, beaucoup d'orphelins et beaucoup de femmes avec un travail, mais obligés de se prostituer. C'était une femme sur 10 qui se prostituait volontairement parce qu'elles n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois. Et cette volonté que j'avais, c'était vraiment de rétablir un peu la vérité historique de qu'est-ce que c'était un bordel, comment ça se passait vraiment, parce qu'il n'y a rien de romantique à faire le tapin, il n'y a rien de romantique à travailler dans une maison close, même si c'est joli, c'est pas joli. C'est beaucoup d'attentes, c'est pas de liberté, l'incapacité de sortir, voir sa dette qui augmente tout le temps, c'est des bisbilles pour tout et pour rien, et puis ben, c'est de la misère sociale, c'est de la misère de tout, et on a tendance vraiment à mettre un vernis, mais c'est très français ça, de dire « Ah, mais oui, c'était pas très bien, mais bon, il y avait ça aussi, et c'était quand même sympa. » Mais non, c'était pas sympa du tout. Et on voit, enfin, il y a eu des séries qui sont très bien, que j'ai adorées, que j'ai en DVD chez moi, comme Maison Close, Le Canal... qui ont des personnages super. Il y a Valérie Carcenti dedans qui est incroyable, en mère maquerelle, c'est génial. Mais ça donne quand même une vision. On a l'impression qu'elles peuvent choisir leurs clients, mais ce n'est pas comme ça. Et je vous conseille, si vous voulez voir un peu plus de réalité historique, de regarder le film La Polonide. Parce qu'en fait, dans les maisons closes, alors ils n'ont pas encore réussi à pousser le vice vraiment à montrer la réalité, mais les filles avaient des rôles. Il y avait la juive, il y avait la noire, il y avait la blanche, la blonde. Et en fait, les hommes venaient et choisissaient un type de femme précis. Et comme on choisirait sa pièce de viande chez le boucher, quoi. C'était vraiment ça. Et dans la Polonie, ils le font un peu, mais ils ne poussent pas vraiment encore à une réalité vraiment extrême, quoi. Mais voilà, c'était ça, les bordels. Et c'était pas beau, c'était pas drôle. Et je voulais montrer que pour ces femmes-là, la prostitution, c'est un boulot, c'est un métier. Il n'y a pas de notion de plaisir ou de désir ou d'envie. C'est comme aller à la mine, quoi. C'est comme aller trimer dans une usine. Et je voulais, enfin, je voulais pas faire un roman où on aurait pu avoir l'impression que ça allait être quelque chose de romantique ou en tout cas de lycée. Je voulais montrer la vérité et du coup, c'était important pour moi de parler de ces femmes-là et de parler d'elles comme des travailleuses et pas comme, comme ce qu'on pourrait voir aujourd'hui. Et je pense à certains livres qui sont sortis sur une idéalisation du monde de la prostitution qui n'est absolument pas comme ça, quoi.
Ça a provoqué quelques étonnements, quelques gênes éventuellement chez les éditeurs ou chez des lecteurs adultes. Par contre, les lycéens, la preuve, ils lui ont donné le prix imaginal aussi parce que c'est un passionnant roman d'aventure, parce que ce personnage est profondément attachant, parce qu'il y a tas de raisons. Mais en tout cas, ça ne les a pas du tout dérangés.
Ah non, mais c'était un non-sujet. Il n'y a pas un seul lycéen qui est venu me parler de prostitution. J'étais presque étonnée. Vraiment, ils avaient beaucoup d'autres sujets. Mais je pense que c'est très représentatif du fait que les jeunes générations sont beaucoup plus au courant que ce qu'on pourrait penser de ce qui se passe dehors, parce qu'ils ont accès à beaucoup plus d'informations. Et en fait, ils savent que ça existe déjà. Enfin, ils n'ont pas découvert ça avec Rouille, quoi. Ils savent que ça existe, ils sont au courant. Et du coup, c'était pas... Enfin, il y a des choses qui les ont choqués. Genre, par exemple, le fait que je tue un animal. Ça, mais ça, tout le monde a été choqué par ça, je crois. Ça les a beaucoup plus interrogés que le fait que l'héroïne soit une prostituée. Vraiment, je crois que vraiment, ça n'a jamais été abordé, ce sujet-là, dans aucune rencontre scolaire que j'ai faite, dans aucune discussion que j'ai eue avec des lycéens qui sont venus me faire dédicacer le livre, rien du tout, quoi.
C'est son taf, mais c'est une femme comme les autres.
Exactement.
Rouille, donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, vraiment, je vous le recommande. Non seulement le prix Imaginal des lycéens, un livre lisible par des grands ados, mais aussi un livre passionnant pour les adultes Et deux autres prix sont venus s'ajouter à ce premier prix. Donc c'est vraiment un livre qui a bien démarré ce qu'on peut appeler maintenant la carrière littéraire de Florian Soulas. Très vite, on passe au second, Les Noces de la Renarde. On est dans le steampunk pour ce premier roman et on passe cette fois-ci à la fantaisie urbaine, 1461 au Japon, 2016 à Tokyo. Deux personnages qui normalement évidemment ne devraient pas se rencontrer, mais par le biais de la magie et du passage des esprits dans le temps, eh bien vont rentrer en contact plus ou moins et même plutôt plus rugueux. J'en dévoile pas plus, simplement ma première remarque, Florian, est donc une question. On passe dans un tout autre univers, mais j'y vois une problématique quand même commune, qui est, c'est ce que dit la quatrième de couverture du roman, de façon à mon avis très juste, entre quête d'identité et désir d'émancipation. Donc, la première impression sur les deux romans, vous me direz, Florian, si vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas la femme d'un seul livre, tout le temps répété, comme certains écrivains, mais chaque livre est différent, nous emporte dans des univers différents, dans des genres différents au sein de l'imaginaire, mais on retrouve votre personnalité, vos thématiques, vos envies. Est-ce que vous êtes vraiment une autrice intéressée par la quête d'identité et le désir d'émancipation, Florian Soulas?
Oui, totalement. C'est vrai que les thèmes de Nénès et de Rue se recoupent beaucoup. Il y a des thèmes vraiment semblables. Parce que donc Violante cherche qui elle est, parce qu'elle est amnésique et elle cherche une façon de sortir de cette situation où elle se trouve, parce qu'elle n'a pas choisi d'être dans un bordel, elle, pour le coup, on l'y a mis. Donc elle cherche à récupérer son destin et pouvoir être proactive dans sa propre vie, quoi. Et dans Les Noces, en fait, les deux héroïnes, Ikari, donc la Kitsune du Moyen-Âge, découvrent en fait que les règles des dieux l'enferme un peu d'une certaine façon, parce qu'en fait, quand elle voit les humains arriver et qu'elle est curieuse et qu'elle veut savoir, on lui dit « Ah non, ça non. Manger un humain ou deux, oui. Copiner avec, pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait. On n'a jamais fait comme ça, on ne va jamais faire comme ça. » Et du coup, elle doit prendre la décision vraiment d'aller à l'encontre de toutes les règles qu'elle a toujours connues pour en fait faire ce qu'elle a envie, et elle va découvrir qu'on ne veut pas la laisser faire ce qu'elle a envie, donc il faut qu'elle trouve les moyens de sortir de ça, ou en tout cas de transgresser ces règles-là. Et du coup, c'est aussi une quête d'émancipation. Et puis Mina, la pauvre, elle a des pouvoirs dont elle n'a pas envie et qu'elle ne voit pas comment elle pourrait utiliser pour faire quelque chose de bien. Ça lui pourrit la vie. Et du coup, parce qu'elle est la gamine bizarre qui regarde le plafond alors que personne ne voit rien, elle a du mal à trouver sa place dans la société. Enfin, la société japonaise, c'est quand même très cadré, c'est très rigoureux. Tout le monde a sa place, tout le monde a son rôle. Et elle n'arrive pas à trouver un espace pour ce qu'elle est parce que forcément, elle est mise de côté. Et elle a beau faire tout ce qu'elle peut pour essayer d'être normale, ça ne marche pas. Et il va falloir qu'elle embrasse un peu ce don presque à son corps défendant pour comprendre qu'en fait, elle a le droit de choisir, elle a le droit de prendre son destin elle aussi en main et de faire un choix à la fin sur qu'est-ce qu'elle va faire de ses pouvoirs. Et du coup, voilà, c'est vraiment... C'est presque plus une quête d'identité, c'est presque plus une quête de quelle est ma place dans la société et comment je trouve cette place-là. Est-ce que je dois subir ce qu'on me donne comme carte, ou est-ce que je peux choisir de sortir de ces cartes-là, d'en trouver d'autres, de faire autre chose? Je pense que c'est une problématique qui nous touche toutes, et tous, mais toutes particulièrement en tant que femmes, parce que, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, enfin, voilà, on commence à se réapproprier nos cartes à nous et à pouvoir les jouer. Et je pense que c'est une problématique qui est assez universelle. Enfin, pas tout le monde passe par une quête d'identité à un moment et une quête de soi, mais particulièrement en ce moment, je pense que c'est bien d'avoir ces personnages féminins qui montrent que on va galérer, mais en fait c'est possible. Et forcément, que comme dans toute quête d'identité, on doit laisser des choses derrière nous, on doit abandonner des choses, mais parfois c'est pour le mieux et il faut pas avoir peur d'avancer et de bousculer un peu les codes pour trouver sa place.
D'avancer, de bousculer les codes et parfois même de rompre quand c'est nécessaire. Florian Soulas, il y a un autre élément entre vos deux premiers romans. On a bien vu des univers, des périodes très différentes, des genres différents au sein de l'imaginaire, mais j'y vois aussi votre intérêt pour les villes. Paris, dans le premier roman, dans le second roman, Les Noces de la Renarde, Tokyo. Et vous vous intéressez aussi, bien sûr, aux beaux quartiers, mais surtout aux quartiers populaires, aux ruelles, aux endroits difficiles, où parfois on passe à côté et on ne les voit pas. Vous avez une fascination pour les villes, Florian Soulas?
Oui, moi je suis parisienne, je suis née dans Paris, je grandis dans Paris, je vis dans Paris. Paris, c'est la plus belle ville du monde, désolée. Mais oui, en fait, je trouve que, alors, pour avoir pas mal voyagé après, je trouve que c'est assez fascinant de voir comment les gens qui n'habitent pas dans des très grosses villes, déjà, je comprends que ce soit difficile d'arriver dans des très grosses villes, mais en fait, et surtout les touristes, en fait, ils ont cette capacité, ils, en fait, ils voient pas. Ben, c'est normal, parce que quand on est deux jours à Paris, ben, on va voir la Tour Eiffel, on va voir les endroits qui sont beaux. Mais en fait, mais même moi, hein, des fois, je me rends compte que j'ai pris ce pli de ne pas voir ce qui me dérangeait dans Paris. Parce que, mais en fait, il y a énormément d'endroits, et souvent extrêmement proches des endroits très touristiques, qui sont extrêmement pauvres ou extrêmement désertés. Et pourtant, c'est des endroits qui sont magiques, et Paris, c'est une ville qui a une histoire incroyable, et chaque ruelle a ses histoires. Et moi, ma passion, c'est de sortir marcher dans Paris de nuit, parce que, alors vraiment, si vous pouvez marcher dans Paris de nuit, je trouve qu'elle est mille fois plus belle. Elle est éclairée, c'est magnifique. Et pareil, quand je suis allée à Tokyo, je trouve qu'il y a une... En fait, c'est très grosse ville, c'est comme des villages rassemblés dans une ville, et passer d'un arrondissement à l'autre, ou d'un quartier à l'autre, tout peut changer du tout au tout. Et on sait jamais, on a l'impression vraiment, ben, c'est le thème du festival, mais de passer une frontière parfois, et de, on se dit, mais alors il y a 5 minutes, j'étais dans le 16e et tout était très joli, et maintenant je suis au fin fond du 18e ou 19e, et ben, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est beau, hein, pourtant, mais c'est pas du tout les mêmes ambiances, ça change, la faune change, la flore change, il y a des endroits qui sont très construits, dans tout cas, il n'y a pas du tout de verdure, il y a des endroits où il y a des parcs immenses, il y a des temples dans le centre-ville, c'est vraiment... c'est, alors si j'étais une femme de Dune, ce que je ne suis pas totalement, je dirais que c'est très Bene Gesserit, la ville, dans sa construction et dans sa façon d'être pensée par les citoyens qui vivent vraiment dans les grosses villes. Et c'est des villes dans des villes dans des villes dans des villes, et chaque quartier est un microcosme dans un plus gros microcosme, dans un plus gros microcosme d'arrondissement, de ville, comme ça. Et du coup, c'est passionnant parce que ça ne s'arrête jamais. Et même moi qui ai vécu 30 ans dans Paris, à chaque fois, je découvre encore des endroits que je ne connais pas, et des ruelles que je ne connais pas, avec des histoires que je ne connais pas. Et du coup, c'est une source inépuisable d'émerveillement et de rencontres. Et ouais, j'adore les villes, mais après, ouais, j'aime la campagne, hein, je trouve ça ressourçant, mais il y a une émulation dans la ville, il y a une urgence un peu, surtout dans Paris. Je trouve que c'est très prégnant quand on y est. Je pense que les gens qui ne vivent pas à Paris le ressentent. Hein. On a l'impression qu'on court partout, mais en fait, non, c'est juste que c'est notre rythme normal. Mais il y a une espèce d'urgence à faire des choses, à vivre vite. Et je trouve ça très... moi, j'aime bien ça, moi.
On était dans le Paris steampunk d'un 19e siècle fantasmé, rêvé, reconstruit. On est parti au 16e ou 15e. 15e, c'est ça, je dis toujours, sur le siècle. Et puis, à l'époque contemporaine, au Japon et à Tokyo. Et puis là, on va aller ailleurs, beaucoup plus loin, dans l'espace. Alors, on aurait pu penser, puisqu'on va parler de space opéra, que vous nous entraîniez sur la Lune ou sur Mars, peut-être même sur Vénus. Il y a pas mal de romans de science-fiction français et étranger sur ces planètes. Et puis non, vous nous entraînez ailleurs, une planète gazeuse, une planète qu'on connaît beaucoup moins, Jupiter. Mais pourquoi, Florian Soya, cette fascination pour Jupiter?
Parce que c'est la plus belle planète du système solaire. Fight me. C'est, ouais, Jupiter, c'est, je sais pas, déjà, c'est une planète qui est fascinante d'un point de vue scientifique. Moi, je suis ingénieur. Quand j'étais petite, je voulais être en même temps paléontologue et astronome. Voilà, je voulais tout faire, parce que, a priori, pourquoi pas. Et vraiment, je trouve que Jupiter, c'est un peu la grande oubliée du système solaire, parce que c'est ni la plus proche du Soleil, ni la plus loin. Elle n'a pas d'anneaux visibles, alors qu'en fait, si, elle a les mêmes anneaux que Saturne, c'est juste qu'ils sont beaucoup moins visibles. On peut les voir parfois, mais la plupart du temps, on ne les voit pas. Et tout ce qu'on se rappelle de Jupiter, c'est que c'est la plus grosse planète du système solaire. Et parfois, on l'appelle l'étoile ratée, parce qu'elle est tellement grosse qu'on a l'impression, alors que ce n'est pas vrai du tout, hein, qu'elle aurait pu être une étoile en formation, alors que non, c'est juste une très grosse planète. Mais déjà, regardez-la, elle est magnifique. Et puis, c'est une planète qui a une tempête qui fait la taille de la Terre et qui tourne en continu depuis des milliers d'années. Elle est déjà visible, cette tempête, dans la Grèce antique. Elle avait déjà été repérée. Enfin, c'est incroyable. C'est une planète qui est mouvante, on voit ces tempêtes qui grossissent, qui rétrécissent, qui grossissent, qui rétrécissent par cycle. Enfin, il se passe des choses, c'est incroyable. C'est une planète qui est chaotique complètement. En fait, on a l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe là-bas et qu'elle ne veut pas qu'on sache ce qui se passe là-bas. On a l'impression que c'est une espèce de boule de colère qui dit « Vous m'avez oublié, mais alors les gars, jamais vous ne saurez ce que je cache, jamais vous ne verrez ce qu'il y a en dessous, je vais tout garder pour moi et vous n'aurez rien. » Elle est vraiment... c'est un espèce de déferlement de puissance, on ne se rend pas compte, hein, mais c'est des vents à plus de 800 km/h, mais c'est improbable. Et vraiment, c'est cette espèce de boule de chaos en train de dire... vous ne m'aurez pas, et c'est une boule de puissance, mais je trouve que c'est incroyable. Et du coup, c'est ce qu'on va un peu exploiter dans le roman, en fait. cette volonté des humains de toujours aller plus loin, et Jupiter, c'est la seule planète qu'ils n'ont pas pu explorer. Et du coup, il y a forcément cette volonté de dire, on va dompter cette planète-là, on va passer ces tempêtes. Et Jupiter a dit, non. Alors, venez essayer, mais moi, je vais vous broyer et je vais vous recracher. Et c'est comme ça que se construit la main. Et moi, je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est vraiment une planète qui est magnifique, elle est splendide. Et c'est un peu c'est la grande oubliée du système solaire, je trouve, alors que c'est de loin la plus intéressante d'un point de vue même scientifique. Hein. Il se passe plein de choses. C'est une atmosphère qui est différente. C'est un noyau qui n'est pas dur, mais c'est aussi du méthane solidifié parce que la pression est tellement énorme sur Jupiter qu'en fait, il y a probablement des choses solides qui circulent sous cette couche de nuages qu'on n'a jamais pu voir. Mais en tout cas, tous les modèles qu'on a pu faire tendent vers ces choses-là. J'espère qu'un jour, on verra ce qui se passe là-dessous, vraiment en profondeur, parce que moi, ça me passionne. Et voilà, j'avais envie d'imaginer ce qu'on pourrait trouver si un jour on y allait, et qu'est-ce qu'on y verrait, et qu'est-ce qu'on... Enfin, j'espère qu'on ne va pas aller la piller trop vite, mais qu'est-ce qu'on pourrait en retirer. Et voilà, c'est ma planète préférée.
Alors... Petite allusion, peut-être tout le monde n'a pas perçu, mais Floriane, en nous parlant, partie pour nous faire rêver de Jupiter, ce qui n'était pas gagné d'avance, j'avoue, y compris moi-même, quand j'ai reçu le manuscrit de son roman, j'ai eu le privilège de le lire avant vous, j'ai découvert vraiment un monde, et Lama. Vous me parlez de Lama, alors non, pas de mauvaise plaisanterie. Une fan l'a fait en nous parlant de Lama, je l'ai d'ailleurs condamné à venir nous parler des Lamas de l'année prochaine. Non, ce n'est pas des Lamas, les petits animaux sympathiques, il s'agit bien d'un amas, un amas de débris satellisé, construisant une sorte de, comment on pourrait dire ça, Floriane ?
Oui, une décharge.
Une décharge. Et vous avez imaginé, alors pas tout le roman, parce qu'il s'y passe plein de choses et on change, et on démarre sur Vénus, on se retrouve ensuite ailleurs, on va aller autour de Jupiter, on voudrait aller sur Jupiter, mais cet amas, là où d'ailleurs un de vos personnages principaux va commencer à bosser, comme recycleuse, allez, essayez de nous brosser un peu ce monde-là de recycleuses et de recycleurs qui travaillent dans l'espace. C'est quoi cet amas? Comment ça se passe? Racontez-nous ça, Floriane, donnez-nous envie.
Ben, l'amas, en fait, il s'est construit à partir de Jupiter. Donc, comme je disais, dans l'histoire, en fait, on a colonisé toutes les planètes. En tout cas, on utilise les planètes et on colonise les satellites. Et par exemple, alors c'est issu d'un vrai fait scientifique, théoriquement, sur Saturne, les conditions atmosphériques et de pression font qu'il pourrait pleuvoir des diamants. Donc dans l'histoire, il pleut vraiment des diamants, et du coup, Saturne est une planète qu'on peut exploiter parce qu'il se passe des choses, on peut récupérer des données et des denrées qu'on peut revendre derrière. Donc il y a tout un système économique qui se met en place autour de Saturne, et ces satellites sont terraformés, et du coup, il y a un gouvernement sur Saturne, autour de Saturne. Sauf que Jupiter, comme on n'arrive jamais à pénétrer son atmosphère et à voir ce qu'il y a en dessous, même si on sait qu'il y a beaucoup de néon et que le néon, c'est ce qu'on utilise pour la cryogénisation, et donc c'est ce qui permettrait au système solaire de pouvoir aller plus loin et de sortir du système solaire pour aller explorer la galaxie, on n'y arrive pas. Donc en fait, toutes les projets de terraformation qui ont été commencés autour de Jupiter ont été abandonnés petit à petit. Mais il y a quand même eu une très grande vague d'exploration spatiale, donc il y a plein de vaisseaux qui ont tenté de traverser l'atmosphère de Jupiter. Ils se sont fait broyer, déchiqueter, et ils se sont fait recracher par les tempêtes, et donc réexpédier dans l'espace. Et ces débris, ont fini par former l'amas, donc cette espèce de décharge, cette espèce de conglomérat de morceaux de vaisseaux déchiquetés, qui s'est mis à orbiter en fait autour de la planète, donc coincé en fait entre son attraction et les vents solaires qui permettent de repousser tout ça. Et en fait, le système solaire, donc ce que j'appelle la ceinture extérieure, donc Vénus, Mercure, la Terre, Mars et le système extérieur, donc les autres planètes, se sont dit, écoute, en fait, puisqu'on ne peut rien faire de Jupiter et qu'il y a ce truc-là, autant exploiter ce filon et dire, tout ce qui ne nous sert plus en termes de vaisseau ou de transporteur, on va le foutre là-bas, de toute façon, ça tient tout seul. Et puis voilà, donc en fait, c'est devenu une espèce de grosse décharge. Et pour brosser le tableau définitivement, on dit, puisque cet endroit est vraiment, c'est vraiment l'antichambre de l'enfer, quoi. On va mettre les gens qui ne méritent pas de vivre chez nous, donc on va mettre un bagne sur cette espèce de prison flottante. Et puis en plus, pour les punir vraiment bien, ils seront obligés de faire en sorte que tout ça se tienne en place, et donc de vérifier que ce n'est pas envahi par des plantes endémiques parce qu'il faut bien respirer. Il faut rafistoler les trous parce que si jamais il y a une fuite, ils vont tous mourir parce que dehors c'est l'espace et on ne peut pas respirer. Et donc en fait, ils sont en plus d'être punis, envoyés au fin fond de l'univers dans un endroit horrible, ils sont obligés de faire l'entretien et tout ça. Mais c'est aussi du coup une zone de non-droit et de non-lieu, donc qui n'est réclamée par aucune planète. Donc il n'y a pas vraiment de règles qui s'appliquent là-bas, en tout cas de règles de justice ou de loi. Et du coup, tous les gens qui veulent échapper un peu à la justice finissent par arriver sur l'amas à un moment en se disant qu'ils vont rester là 2-3 mois pour faire profil bas, sauf qu'en fait, on ne repart pas vraiment de l'amas, quoi. c'est très difficile. Et du coup, il faut bien vivre, donc il faut bien manger, donc il faut bien faire des choses. Et toute cette faune là-bas survit à base de troc, et notamment parce que comme on vient déposer plein de vaisseaux sur la mât de manière régulière, hein, les autres planètes viennent larguer leurs déchets là, ils payent les gens qui sont là-bas pour venir les récupérer et les arrimer sur la mât et en gros être sûr que ça soit bien, enfin que ça flotte pas un peu n'importe où et que c'est à peu près ordonné parce que sinon ça fait désordre, quoi. Et du coup les recycleurs, dont Kat fait partie, ont pour boulot en fait de venir récupérer les cargaisons de vaisseaux qui ne servent plus à rien et ils viennent les souder dans l'espace à la mât et en fait du coup comme ça ils créent de nouveaux espaces de vie aussi pour les gens qui vivent là. Parce que du coup, la faune se reproduit aussi à l'intérieur, hein, les gens. Et du coup, il y a toujours plus en plus de monde. Et donc, les espaces de vie sont quand même limités. Et du coup, voilà, en venant amener de nouveaux vaisseaux, on crée de nouveaux espaces de vie. Et puis surtout, on récupère pas mal de pièces détachées pour réparer les zones déjà accessibles. Et puis pour faire du troc aussi, pour racheter des verrous chez soi. Parce que comme il n'y a pas de loi, si on ne ferme pas bien sa porte, on ne retrouve plus rien chez soi. Même des fois, on n'a plus de chez soi. Et du coup, voilà, c'est un monde un peu difficile. La pauvre Kat se retrouve projetée là-dedans alors qu'elle vient d'une famille plutôt riche de Neptune, c'est une scientifique. Et là, maintenant, il faut aller racler les fonds de toilette des autres. Et puis finalement, elle va être prise sous l'aile des recycleurs qui vont lui donner... Alors, est-ce que c'est vraiment un meilleur métier? Je ne sais pas, parce qu'ils sont quand même dans l'espace. C'est quand même très précaire.
Mais c'est très dangereux aussi.
C'est très dangereux, mais c'est mieux que de ne pas avoir de boulot sur la mort.
Justement, on commence à parler de Kat, qui est une des deux femmes qui sont les personnages principaux de l'histoire. Donc, une physicienne, quelqu'un de brillant, qui travaille donc dans le domaine des sciences. On y met toujours un peu de soi dans les romans. Et puis, cette Neptunienne, il va lui arriver, on ne va pas raconter, c'est au chapitre 5, il va arriver quelque chose qui va l'obliger donc à partir, aller sur la mât. Vous découvrirez tout ça. Mais il y a une scène qui est au travers de cette aventure, qui est assez frappante pour moi. Elle est donc brillante, son directeur un peu de thèse, quelque part, la présente. Et à côté de ça, il y a un jeune crétin, un jeune salopard, il n'y a pas d'autre nom, beaucoup plus médiocre, évidemment, qui, quelque part, la traite comme moins que rien, comme si ce n'était pas elle. Et en fait, on s'adresse à ce jeune imbécile, beaucoup moins qualifié, et on le prend pour la personne qui vient de faire ça. C'est une scène courante, malheureusement, pour beaucoup de femmes, où on s'adresse à la directrice de collection en croyant, en fait, que c'est la stagiaire qui amène le café. C'est pas déshonorant d'amener le café, on m'en a amené, je suis absolument ravi. Mais quand quelqu'un dans un boulot a une fonction précise, qu'on imagine parce qu'il y a un homme à côté qu'automatiquement c'est lui qui a la fonction, eh bien, c'est des phénomènes. Ça vous est arrivé, cette scène, Lauriane, cela, est-ce que vous mettez de vous dans cette histoire qui est arrivée et qui provoque ensuite le départ de votre héroïne pour une autre planète?
Malheureusement, oui. C'est vrai que les oubliés de la main, enfin, ouais, Kat a beaucoup de celles que j'ai pu être quand j'étais en thèse. Alors, seulement dans les parties où on la voit dans sa vie d'avant, parce que maintenant, je ne fais pas ce qu'elle fait, mais... en fait, ça me tenait à cœur. Alors, c'est vrai que comme ça se passe dans le futur, hein, c'est 2700, j'aurais pu prendre le parti de me dire que l'égalité homme-femme est enfin apparue et que c'est vraiment très cool. Mais je trouvais que la science-fiction étant là pour nous aider à mettre en lumière des choses qui ne sont pas normales, parce qu'on n'a plus l'habitude de les voir tellement c'est devenu courant pour nous, c'était vraiment important pour moi de passer cette scène-là. Donc, de sexisme ordinaire, en fait, dans le milieu du travail. Parce que je l'ai vécu trop souvent en sciences dures. Déjà, il y a très peu de femmes. Et c'est vrai que, enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me demande qui j'accompagnais en conférence, alors que c'était moi qui présentais. Et quand je disais, c'est moi qui présente, on me disait, mais donc, c'est qui ton directeur de thèse? Comme si je devais forcément me faire tenir la main par un homme pour pouvoir présenter. Alors qu'en plus, mon directeur de thèse ne m'a jamais accompagné à aucune conférence. Il m'a toujours laissé, il m'a dit, mais vas-y. Tu vas débrouiller très bien, vol, petit oiseau, démerde-toi. Et parce qu'il avait confiance, parce qu'il savait que je faisais très bien mon travail et qu'il n'y avait aucune raison que je ne me débrouille pas toute seule. D'ailleurs, sur le coup, j'en voulais peut-être un peu, mais avec le recul, je le remercie parce qu'il m'a permis de m'endurcir beaucoup plus vite sur ce genre de choses. Et du coup, Kat voilà, se retrouve dans cette situation où en fait, on pense que c'est une assistante, alors qu'en fait, c'est elle qui a tout fait. Et voilà, ça me tenait à cœur de montrer ça parce que je sais, parce que je le vois, ça change, mais c'est très long. Et c'est très difficile, mais c'est valable dans tous les domaines. Hein, mais alors, moi, je parle de science parce que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je connais le mieux. Et il y a de plus en plus de filles, mais c'est vraiment difficile. Et j'avais envie de montrer que c'est vraiment absurde d'avoir des préjugés comme ça. Mais c'est encore le cas, c'est encore très courant. Et voilà, je voulais mettre le doigt, même si c'est que le temps d'un chapitre, sur ça. Parce que je pense aussi que c'est un truc fondamental pour le personnage de Kat. Cette idée que, en fait, parce qu'elle est une femme, en plus elle n'est pas très grande, et tout le monde pense qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule, et tellement que même elle, elle pense qu'elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Et même si elle le fait, hein, elle est toujours dans cette espèce de presque syndrome de l'imposteur en se disant, mais en fait, toute seule, je ne vais pas y arriver, il faut qu'on m'aide. Et du coup, ça va lui. Il faut qu'elle se fasse un peu violence pendant le roman, mais elle va dépasser ce truc-là et se dire, mais en fait, je suis capable, je peux faire, j'ai déjà fait des choses incroyables. Et ça, c'est une réflexion par laquelle je suis passée plein de fois en me disant, mais en fait, peut-être que j'ai besoin d'aide, parce qu'effectivement, il faut qu'on m'aide. Et en fait, je me dis, mais en fait, non, j'ai fait des choses, j'ai toujours tout fait toute seule, en fait, je sais faire, je peux faire. Et il faut s'autoriser, vraiment, autorisez-vous à croire en vous, quoi. Enfin, faites-le, n'ayez pas peur. Ok, peut-être qu'on se plante, hein. Moi, ça m'est arrivé de me planter, hein. Mais c'est pas grave, parce que c'est ça aussi la vie, et il faut pas attendre qu'on nous dise que c'est bien et que ça va bien se passer et qu'on vienne nous prendre la main. Déjà, on n'en veut pas de vos mains, là. Laissez-nous nous démerder. On va y arriver, et puis si on tombera, on tombera. C'est en tombant qu'on apprend. Et voilà, c'est ce que je voulais faire de Kat. Je voulais que, parce qu'elle va tomber, elle arrête pas de se casser la gueule, la pauvre, en plus, c'est horrible. Mais en fait, elle apprend qu'elle est pas en sucre. Que ouais, elle va tomber, mais en fait, elle aura des bleus et ça va être difficile et ça fait mal, mais elle va se relever et elle va continuer parce qu'en fait, son but, il est plus important que ça et elle est capable, quoi. Et voilà, j'avais envie que les lecteurs, les lectrices surtout, ils aient des personnages comme ça qui sont capables et qui découvrent qu'ils sont capables et qui leur prouvent qu'en fait, on peut faire des choses, on va faire des choses et il ne faut pas avoir peur de les faire. Et ouais, ce ne sera pas toujours facile, mais on peut les faire, quoi.
Autre personnage féminin fort du roman, des Oubliés de Lama, Jaspe, la mécanicienne. Alors, voilà, on ne va pas tout révéler non plus, mais un personnage qui, elle, est déjà affirmée, qui a réussi des choses, qui est capable de brutalité, qui ne se laisse pas intimider, y compris par les hommes auxquels elle se confronte, et parfois très violemment, et qui, quelque part, bouscule un peu Kat. C'est un couple rigolo, entre guillemets, parce que c'est pas un couple amoureux du tout, mais c'est un couple rigolo qui se constitue et qui porte un peu tout le roman. C'était volontaire dès le début, quand vous avez commencé à écrire le roman, Floriane Solas.
Oui, moi, j'aime beaucoup les duos de personnages. Ça permet de mettre en lumière les failles des uns et des autres et de les aider à surmonter ce truc-là. Et Jaspe, vraiment, je crois que c'est mon personnage préféré. Je la trouve super drôle. J'espère qu'elle va vous faire rire, parce que moi, je la trouve hyper drôle. Mais elle, pour le coup, elle est sur la main depuis plus longtemps, donc elle connaît bien les règles et tout. Et elle a ce côté un peu rentre-dedans, où en fait, elle se dit, de toute façon, c'est la galère ici. Donc si je veux quelque chose, il faut que j'aille le chercher. Elle n'a pas peur de bousculer les gens. Donc elle va un peu bousculer Jaspe, Kat, pour qu'elle fasse des trucs, quoi. Et elle n'est pas toujours tendre, mais elle est toujours bienveillante parce que, en fait, pour elle, c'est tellement absurde les réticences de Kat ou ses peurs. Enfin, vraiment, elle ne comprend pas ce truc-là. Que du coup, elle lui met des coups un peu pour dire mais allez, vas-y, fais des trucs là. Genre, on ne va pas tout faire pour toi, quoi. Prends-toi en main. Et elle est là, c'est une espèce de mini bulldozer qui défonce tout sur son passage, qui sait ce qu'elle veut et qui est prête à l'obtenir. Alors après, elle a ses failles aussi, hein, et Kat va beaucoup l'aider sur ça. Mais je pense que pour le coup, elle est très bénéfique à Kat et elle va lui permettre de vraiment comprendre qu'en fait, elle est capable de tout. Si elle a décidé de le faire, en tout cas, elle peut tenter. Il ne faut pas qu'elle s'empêche de tenter des choses. Et au final, ouais, c'est un couple qui marche bien. Je suis très contente de ce couple de personnages. Après, il y en a beaucoup. Hein, dans Les Noces, déjà, c'était aussi un couple de personnages, de femmes. Mais je trouve que celui-là a vraiment une bonne dynamique. Je l'aime bien.
Kat, donc un des deux personnages principaux, celle qui est peut-être la personnage principale avec vraiment Jaspe, qui est vraiment, si c'est pas tout à fait pareil, pas loin. Elle vient non seulement parce qu'elle est obligée de fuir, parce qu'elle a un nombre de problèmes, mais elle vient aussi chercher quelqu'un. Et ce quelqu'un qui a disparu, c'est son frère jumeau, auquel elle est très liée. Elle pense même être encore intellectuellement liée malgré la distance. Elle pense qu'il est toujours vivant. Et donc, c'est un peu une sorte de fil rouge du roman. Elle cherche son frère jumeau. Mais c'est un peu comme dans une pièce de théâtre de Godot, pas le livre bien sûr, mais on l'attend toujours et en fait c'est un personnage qui est présent dans tout le roman et qu'on voit quasi pas, je ne dirais pas si on va le voir un jour ou pas, ça vous le découvrirez, mais en tout cas, voilà, plus on avance, plus on continue à chercher avec Kat. Est-ce que ça aussi c'était volontaire, l'idée de votre personnage masculin, qu'on va très peu voir ou pas voir, ça vous le découvrirez, ce personnage on le cherche, mais en fait, on le trouve quasi jamais.
Alors oui, non. En fait, j'aime bien les hommes, mais j'ai envie d'écrire des femmes. Mais c'était intéressant, je trouvais, d'explorer cet atout de la gémellité, Et de ce lien en fait qui fait que Kat est persuadée que son frère est toujours vivant, parce que s'il n'était pas, elle le saurait, comme si elle perdait un bras, quoi. Et du coup, elle sent ce lien entre eux qui se distend avec le temps, et elle se dit, mais là, il y a vraiment un problème, j'ai pas de nouvelles, il faut que j'y aille. Et c'est vrai qu'au début, j'avais pas du tout prévu de faire intervenir Pavel, le frère de Kat, parce que dans ma tête, c'était l'objet de la quête. Donc, généralement, on trouve l'objet à la fin de l'histoire, ou pas. Et en fait, à un moment, et je me rappelle très bien, c'était l'été, donc j'ai commencé à écrire le roman en juillet, et en août, j'ai fait une espèce de retraite d'écriture chez une amie, et du coup, c'est hyper cool, on faisait du vélo, on allait manger du fromage, et on écrivait. Et du coup, à un moment, je me suis dit, mais en fait, Pavel, il faut qu'il soit là, dans ce roman-là. Et du coup, je ne sais pas si je peux spoiler ce truc-là, je ne sais pas si ça gêne beaucoup, mais en gros, Kat, elle s'imagine souvent ce que Pavel pourrait lui dire. Et du coup, souvent, en fait, il intervient dans le roman. Et ça, je me suis dit, mais j'avais déjà écrit la moitié du livre. Hein. Quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, en fait, ce serait bien. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de faire ça, de faire intervenir Pavel alors qu'on ne le voit pas et qu'on le cherche, quoi, pour qu'on s'intéresse à lui, pour qu'on ait envie de le connaître et qu'on comprenne pourquoi Kat le cherche, pour que leur relation soit en fait au cœur de cette histoire-là, quoi. Et du coup, j'ai dû te réécrire tout le début. mais en fait, je suis très contente de toi parce que bon, je me suis dit, c'est un peu qui tout double, c'est soit ça passe, soit ça passe pas du tout. Mais en fait, je trouve que ça passe bien et ça permet en fait d'avoir un personnage qu'on voit jamais physiquement, en tout cas pour la majorité du livre. Je ne dirai pas dans quel état on le trouve ou pas, quoi. Mais avec lequel le lecteur a le temps de se familiariser. Parce qu'il a vraiment une voix à lui, quoi. Et j'espère que ça a marché, parce que moi, je crois que c'était une bonne idée. Donc j'espère que vous trouverez que c'est une bonne idée aussi.
Puis on va très vite passer, parce que je veux qu'on avance, et puis il nous reste peu de temps déjà, mais on vous écouterait des heures, Floriane. Il y a quand même quelques beaux portraits de salauds dans le roman.
Bien les méchants.
Voilà, d'abord on a besoin de méchants et d'opposants dans un roman, sinon l'histoire n'avance pas. Mais quand même, il y en a quelques-uns, ils sont gratinés. Là aussi, vous êtes inspiré de gens que vous avez croisés, Floriane.
Je pense que ça, c'est pas du tout les choses conscientes. Je pense que tous les auteurs et les autrices font ce truc d'ingurgiter inconsciemment des trucs qu'on entend ou des comportements qu'on voit, de mouliner tout ça, et puis un jour ça ressort, et je pense que ce soit très conscient, mais probablement, j'avais rencontré un chercheur qui parlait de lui à la troisième personne, il disait « il », et je trouvais ça assez étrange, et du coup il y a un personnage qui fait des choses comme ça, qui parle de lui à la troisième personne du pluriel, à la première personne du pluriel, il dit « nous », et je trouvais que c'était marrant. Ça montre un peu que bon, voilà, il a un peu la grosse tête. Et,
c'est marrant de se moquer aussi.
Oui, c'est marrant de se moquer.
Il est prétentieux. On a parlé de femmes fortes. Il y a quand même un hommage dans l'exergue à Arthur C. Clarke. Alors, tout le monde sait que c'est celui qui a fait le scénario de 2001 Odyssée de l'espace, excusez du peu. C'est un grand auteur de space opéra de la période classique. Et je dirais que par rapport à tous les hommes de cette génération, dont pas mal nous ont affligés par leur sexisme, mais ça ne passe plus aujourd'hui. C'est des livres qu'on n'arrive plus à lire et qui seront de moins en moins lus. Clarke y tient, d'abord peut-être parce qu'il y a peu de personnages quelque part humains, et du coup ça se voit pas, donc du coup on évite le problème, mais Clarke reste un auteur passionnant de space opéra. Et je vois que si votre roman est évidemment, Floriane, très différent, il a toute cette modernité, tout ce qu'une jeune femme de votre génération peut apporter au space opéra, néanmoins, il y a un hommage au space opéra classique. Comment vous avez choisi la référence à Clarke, justement ?
Eh bien, en fait, Clarke, moi, c'est un des premiers space opéra que j'ai lu. Hein. Et j'ai relu d'autres choses. J'ai relu Asimov, par exemple, pas très longtemps, et je me suis dit, ouf, ouais. Passons.
Ouais, exactement.
Gardons-en des souvenirs émus et nostalgiques, mais ne relisons pas. Et du coup, je voulais absolument mettre une exergue, parce qu'en fait, j'ai fait un épilogue, mais pas de prologue. Et du coup, j'aime bien quand c'est symétrique, donc je voulais mettre un truc. Et au début, je me suis dit, ce serait marrant de mettre une citation de Jules Verne pour rappeler un peu Rouille. Parce que dans Rouille, on est allé sur la Lune aussi, grâce à Jules Verne. Et je commence à réfléchir à des citations et ça. Et en fait, je me disais, mais en fait, bon, Jules Verne, déjà, il y en a plein. Et puis, au final, il n'y avait rien qui serait correspondait vraiment au roman. Et puis, je regardais ma bibliothèque et puis j'ai vu Arthur C. Clarke et je me suis dit, ah, mais oui. Attends, je crois qu'il y a des choses vraiment super dans Clarke. J'avais des super bons souvenirs de 2001 Odyssée de l'espace, de ce que j'avais lu et tout. Et je me suis dit, et je me rappelle de cette citation-là, qui est en exergue, en me disant, mais il y a un truc sur la distance dans Clarke. Et je voulais mettre cette citation-là parce que du coup, en fait, ça fait référence aussi au fait que que, en fait, la citation, c'est « la distance rend toute chose infiniment précieuse ». Et en fait, ça fait écho à la quête de Kat, qui est éloigné de son frère, et parce qu'en fait, c'est parce qu'il n'est pas là, du coup, il est encore plus important que quand il est là. Et ça, c'est un truc qu'on a souvent, je trouve, par rapport à nos gens qui sont proches, ou même aux villes dans lesquelles on vit, on dit que parce que c'est proche, on aura toujours le temps de les voir ou de passer du temps avec eux. Et on oublie, en fait, que les gens partent parfois, que les grands-parents meurent, et que, en fait, la ville, elle est toujours là. Mais enfin, moi, j'ai plein d'amis parisiens qui n'ont jamais visité Paris. Et du coup, je me dis, c'est vrai, en fait, ça, c'est parce que c'est quand les gens ne sont plus là, ou quand les choses ne sont plus là, qu'on se dit, ah, mais j'aurais dû passer plus de temps avec cette personne, ou j'aurais dû aller visiter ma ville et voir ces trucs-là que je n'ai jamais vus. Et du coup, je trouvais que cette situation était particulièrement bien adaptée aux oubliés, parce que, du coup, on part très loin. Enfin, Kat, elle est quand même déracinée, elle a quitté sa planète, elle est toute seule dans un monde qu'elle ne connaît pas. Et son seul lien, c'est son frère, et il n'est pas là. Et du coup, c'est encore plus important pour elle par son absence. Il est encore plus important pour elle par son absence, parce que c'est un peu, c'est tout ce qui lui reste de sa maison, quoi. Et du coup, ça marchait très bien.
Je crois que c'est... Voilà, je pense que Florian a tout à fait raison. Il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit du space opéra, en tout cas, il y a 20, 30, 50 ans, qui sont illisibles aujourd'hui. Perdez plus votre temps. Vraiment, c'est ringard et insupportable. Arthur C. Clarke, voilà. Un des hommes de cette génération qui continue à nous apporter du plaisir de lecture, du grand space opéra, je pense à La Cité des Astres et tant d'autres. Ça reste, voilà, Arthur C. Clarke. Il sera sauvé grâce à ça pour les lecteurs et les lectrices. Sinon, on pensait, quand on a discuté, puisque ce n'est pas un secret, la directrice de la collection dans laquelle on publie le roman de Florian Solas, lorsqu'on réfléchissait à comment on allait en parler, on justement cherchait des références, parce que c'est toujours intéressant de donner, même si c'est une comparaison, n'est pas raison, des références à un certain nombre d'auteurs. Et on se rendait compte que citer ces vieux auteurs mal américains, ça ne collait pas du tout à la modernité du roman de Florian. Ça collait, oui, à l'ampleur, ça collait à l'enthousiasme, mais pas à la modernité. Et le seul qu'a trouvé grâce, je crois, à ses yeux, à mes yeux de directrice de collection, c'est Arthur C. Clarke. Sinon, je citerai plutôt pour la modernité, c'est très différent dans le type de roman, mais sur l'esprit Becky Chambers, l'américaine, ceux et celles qui l'ont lu.
Allez-y, c'est super.
Voilà, c'est aussi très là, c'est une autrice américaine, mais vous voyez, les références, quand même, quand on pense au roman de Florian Solas, elles ne déméritent pas d'un Arthur C. Clarke de la grande époque, elles ne déméritent pas de Becky Chambers. Alors, au cas où elle serait trop modeste, puisqu'on arrive vers la fin de ce café littéraire, je vais retrouver une citation. C'est pour ça que je regardais mon téléphone et non pas parce que je m'occupais d'autre chose. Tout simplement parce que je cherche une citation de Estelle Faye, qui est une aussi des grandes autrices actuelles. Et elle parlait de ce roman. Elle était une des premières lectrices à lire le roman en cours d'écriture et ensuite à lire le roman terminé. Et voilà ce qu'elle en dit. Lui en avant-première, merci Florian, et en à peine plus d'une demi-nuit, un petit pavé de space opéra, un roman incroyable, un texte âpre et dur, et qui fait rêver à l'espace, un roman immersif et incarné, avec des personnages et des visions qui m'accompagneront encore longtemps après la lecture, et avec des touches d'humour aussi. C'est une vraie fresque d'aventure, une grande histoire scientifique, et un roman de vaisseau fantôme, un roman qui ouvre des horizons immenses, et qui flirte avec des atmosphères gothiques, un maelstrom d'émotions et de mystères. Une fois les pages refermées, les dernières pages refermées, j'emporte avec moi la nostalgie des cités flottantes et l'envie de prendre un verre au Black Sails en rêvant la surface inaccessible de Jupiter. C'est juste le troisième roman de Florian Solas. Pourtant, il a l'ampleur et la maturité qui accompagnent d'ordinaire le dixième ouvrage d'un auteur. Un grand bravo donc, et surtout, merci pour le voyage. Je crois que c'est un magnifique hommage. C'est pas un bon roman. C'est pas un très bon roman. Ce troisième roman de Florian Solas, paru comme les deux précédents aux éditions Scrineo, c'est vraiment un très grand space opéra. C'est le premier livre de la collection science-fiction des éditions Scrineo. C'est le premier livre de cette collection que j'ai eu le bonheur de discuter et de travailler peu, parce qu'elle travaille extraordinairement bien avec Florian Solas. Si vous aimez la grande littérature de science-fiction, si vous aimez la littérature d'aventure, du space opéra, une science-fiction chaude et non pas un peu techno, il y a plein de science derrière, mais ça ne se voit pas, c'est les images, la beauté de Jupiter qu'elle nous a inventée. Si vous voulez des vrais personnages masculins, mais aussi des très beaux personnages féminins plein de dynamisme, d'action et de conquête de soi. C'est un livre incroyable que j'ai eu un bonheur incroyable à relire et lire encore. Vous avez beaucoup de chance parce que vous allez le découvrir. Dans quelques minutes, vous retrouvez sous la bulle du livre un petit peu plus loin, Floriane Soulas, qui va avec bonheur vous le dédicacer. Les Oubliés de Lama, c'est un des grands space opéra, y compris comparé à beaucoup d'auteurs américains. Un immense bravo, Floriane Soulas, et merci au coup de cœur des Imaginales.
Merci.